un auteur, une nouvelle.
Des histoires courtes racontées par des amoureux des mots. Eh bien, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, pour reprendre notre série d'émissions, voilà, j'ai été surprise, je n'ai pas pensé que ça serait si fort.
Quel exotisme.
Voilà. Alors, on va vous emmener dans les pays lointains. Alors, en plus, avec tout ce qu'on entend de ce qui se passe en Afghanistan, là.
Oui, cette circonstance.
Voilà. Alors, là, nous, on ne va pas en Afghanistan, mais on va vous parler de la littérature iranienne. Voilà. Alors, autrement appelée aussi littérature persane, qui englobe en fait la littérature iranienne, afghane et tadjik.
Oui, c'est lié à la langue, parce que c'est le persan qui est la langue officielle.
Exactement.
De ces pays.
Alors, donc, la littérature persane, elle est notamment renommée pour sa poésie, qui peut être épique, historique, philosophique, amoureuse, mystique, enfin voilà, il y en a pour tous les goûts.
Que d'adjectifs.
Alors, bon, les auteurs dont on va parler aujourd'hui appartiennent donc à la littérature persane iranienne. Voilà. Alors, cette littérature perse, elle était peu connue en Occident avant le 19e siècle et elle est devenue bien plus connue après la publication de plusieurs traductions à travaux de poètes perses à la fin de l'époque médiévale et inspira des œuvres de poètes et écrivains occidentaux comme Goethe, d'ailleurs, qui publia en 1819 son West Österlich Divan.
Et le divan occidental oriental, je me permets de traduire.
Oh, très bien, parfait.
Mais alors, tu sais, j'ai regardé, c'est le dernier recueil poétique important de Goethe. Il ne fait pas moins de 12 livres, il y a 12 tomes.
Ah bah quand même, il faut ce qu'il faut. Donc, c'est inspiré par une traduction en allemand de Hafez, qui est un poète du 14e siècle.
Absolument.
Et encore, il y a le britannique aussi James Atkinson ou l'américain Ralph Waldo Emerson, qui se sont inspirés aussi de ces poètes iraniens. Donc, je suis tombée par hasard sur un recueil de nouvelles qui s'appelle Les Amours persanes, et donc qui rassemble en fait 17 écrivains qui représentent les trois générations de romanciers iraniens qui sont toujours actifs. Et ces nouvelles ont été sélectionnées par Nassim Vahabi et Alizera Golami, donc qui sont deux écrivains iraniens francophones, et donc ont été traduites du persan par Julie Duvigneau et Masoumé Laïdji. Bon, je ne sais pas si je prononce bien.
Bon, mais, ça, moi je comprends, hein, en tout cas.
Oui, mais
ça veut rien dire.
donc voilà. Donc moi j'ai trouvé que voilà, c'est un livre de recueil assez intéressant.
Oui, donc Ali Reza, c'est un journaliste qui habite Téhéran. Et sa comparse Nassim Vahabi, donc c'est une femme qui vit non loin de chez nous, à Boulogne-Billancourt, et qui a notamment un doctorat en littérature comparée. Donc c'est quelqu'un qui travaille effectivement sur les cultures, la littérature, et qui écrit des contes aussi.
Très bien. Donc, je vous propose d'écouter maintenant donc une nouvelle intitulée « Demain est en chemin », donc de Alizera Golami, qui lui vit en Iran et donc qui est lue par Philippe. Je fais quelques répliques, je crois. Je me rappelle.
Oui, tu me donnes un petit peu la réplique.
Voilà, mais bon.
C'est bien. On est moins seul.
Alors, on vous laisse à l'écoute de « Demain est en chemin ».
J'ai pris le dernier numéro du magazine et j'ai commencé par reluquer la une. Un portrait de Benazir Bhutto surplombait le titre « Adieu à la jeune fille du Pakistan ». Madame Bhutto avait été assassinée et si je comprenais bien, c'était à la démocratie que le Pakistan disait adieu. J'ai tiré de ma poche de quoi payer mon magazine et me suis plongé dedans sans plus attendre, devant le kiosque, pour bien humer ses pages. Ces derniers temps, à cause des sanctions, la qualité du papier avait baissé et lui donnait une odeur indéfinissable, entre pétrole et œufs pourris, qui restait enivrante. La neige avait cessé de tomber depuis une petite heure et la bise me caressait le visage de part en part. Tout était recouvert de blanc, les arbres, les trottoirs, les murets, les escaliers, les grilles. Les voitures tout sautaient en montant lentement l'avenue Vallis-Asre. Il y avait comme toujours quelques coups de klaxon intempestifs d'une poignée d'impatients voulant passer au plus vite, mais ce n'était pas désagréable. Une sorte de petite partition matinale sur la gadoue neigeuse. Les bouchons de Téhéran me semblaient réjouissants. J'ai longé le parc Saï en traînant prudemment les pieds sur le trottoir enneigé, tout en feuilletant le magazine pour trouver les pages de mon reportage. Je me suis arrêté contre un mur pour le lire attentivement. Il traitait des femmes et du football. Une mordue de foot qui remuait ciel et terre pour entrer au stade, et je voulais vérifier que la rédactrice en chef n'avait rien coupé dans mon papier. J'ai été rassuré. Je me suis remis à marcher en regardant de plus près les autres titres et photos. C'était impressionnant. On aurait dit le Time Magazine ou même le New York Times. J'ai lu en diagonale deux articles courts et je suis retourné à Madame Buteau pour voir qui était impliqué dans son assassinat et pour quelle raison exacte on l'avait éliminé. J'avançais en faisant attention à ne pas glisser sur la pente de Vallis-Asre quand le long klaxon d'une Peugeot m'a heurté en pleine figure. Le conducteur a freiné subitement. « T'es dans la lune ou quoi ?» J'ai refermé mon magazine et l'ai regardé abasourdi avant de lui adresser un grand sourire. Il n'y avait pas de quoi gâcher cette si belle journée. Froide, mais superbe. Je lui ai souri à nouveau. Je me suis aperçu que j'étais arrivé au croisement de l'avenue Abbasabad et avait ainsi déclenché les klaxons des taxis. Il n'y avait rien à dire, ils avaient raison, je leur barrais la route. Je me suis poussé pour que chacun puisse profiter de la chaussée. En passant, je me suis retourné vers le conducteur de la Peugeot qui ne m'avait pas quitté des yeux. Je lui ai lancé « Belle journée, non ?» Il m'a répondu calmement « Il te manque une case, connard !» Le temps que je réponde, il avait braqué à droite et démarré en trombe. Les badauds s'étaient arrêtés et me regardaient. Je me suis aperçu du désastre. Madame Buteau était pleine de boue, son visage maculé d'un mélange de neige fondue et de vase, indigne d'elle. Je me suis arrêté après le carrefour et lui ai fait une petite toilette avec le coin de ma manche. Mais les taches se sont étalées sur le visage de Madame Buteau, qui est devenue tout dégoûtant. En regardant ma manche, j'ai compris l'origine de la souillure. J'étais couvert de la tête aux pieds d'éclaboussures de vase. J'ai déboutonné mon manteau et, avec la doublure, j'ai astiqué le visage de Madame Buteau, surtout sous ses lèvres, sa pommette droite et un peu le logo du magazine. Mais ce n'était plus comme avant. Quand vous vous promenez avec votre bien-aimée, vous voulez qu'elle soit impeccable. Arrivé au prochain kiosque, je me suis baissé et j'ai vu sous le comptoir une pile d'exemplaires tout neufs du magazine, tous plus tentants les uns que les autres. Ils me faisaient de l'œil. J'ai jeté le mien sur le tas et j'en ai pris un autre. Comme un vendeur avait le dos tourné, j'ai filé. Non pas que j'ai eu la moindre intention de commettre une infraction, mais je n'avais pas un sou en poche. Et je pouvais toujours repasser pour le payer. Nous voilà partis, moi et Madame Buteau, vers la place Vallis-Asre et le bureau de la rédaction. La démocratie était peut-être morte à Islamabad, mais à Téhéran, elle était en pleine croissance par ce beau jour de neige. Je pensais en chemin à mon prochain papier, au lieu où j'allais pouvoir trouver la matière pour l'écrire. Je pensais à tout cela quand je suis arrivé devant le bureau, dans une rue étroite et embouteillée, au trottoir défoncé. Nos locaux étaient à mi-hauteur de la rue, dans un vieil immeuble à deux niveaux. Il n'y avait toujours ni plaque, ni enseigne. J'ai frappé et j'ai attendu un certain temps. J'ai frappé à nouveau, puis encore une fois. Finalement, un gringalet à la peau tannée est venu m'ouvrir et m'a regardé droit dans les yeux. J'ai compris qu'un portier avait été embauché et qu'il avait décidé, dès son premier jour, de ne pas se montrer commode. C'était une tactique courante à ce poste pour éviter les ennuis. J'ai perçu pour ma part sa présence comme un signe positif. Elle témoignait d'une amélioration de la situation et de la volonté du directeur de développer le magazine. J'ai tendu ma main gelée et me suis présenté. « Vous allez où ?»«
Au magazine. » »«
Il est suspendu. » Je l'ai regardé, hébété, et lui ai répondu « Vous plaisantez ?» en essayant de le repousser pour passer. Il a hurlé « Où vas-tu ?»«
À la rédaction. »«
C'est fermé. » J'étais sidéré. J'ai compris qu'il ne fléchirait pas. Avant qu'il ne referme la porte, je lui ai glissé. « Mes affaires sont dans le bureau. J'étais là il y a quelques jours et tout allait bien. »«
C'est devenu un atelier de confection féminine depuis hier, » m'a-t-il dit en montrant les buis plantés devant l'immeuble.
Il y avait à leurs pieds un tas d'objets divers qu'ils avaient jugé bon à jeter. De la paperasse, des crayons, ce genre de choses. Je lui ai dit « Ah non, pas ça, mes magazines, ils sont forcément sur mon bureau. »
J'avais toujours un florilège d'anciens exemplaires sous la main qui me permettait de garder un œil sur l'histoire. Je veux dire par là que je suivais mon propre parcours de mes débuts à ma situation actuelle. Il a de nouveau fait un signe de la tête vers les buis et je n'en croyais pas mes yeux. Ils étaient là. La neige fondue avait recouvert tous ces précieux magazines et journaux dans lesquels j'avais écrit ces dernières années et qui avaient été suspendus les uns après les autres. Même le mug, souvenir offert par mon collègue, avait été jeté et cassé. Il était à l'effigie d'Albert Camus, désormais blessé à la tête et éborgné. Ma mâchoire s'est serrée et je lui ai lancé un regard noir. Il s'est contenté d'un haussement d'épaule avant de refermer la porte. Je les ai ramassés un par un et les ai essuyés avec la doublure de mon manteau. Il y avait des couvertures de toutes sortes, des photos de sportifs, d'acteurs, de politiciens, d'hommes d'affaires et d'une infirmière de 41 ans devenue célèbre du jour au lendemain pour avoir tué une femme à coups de couteau. Il y avait même une photo d'Alain Robe grillé avec son visage tout ridé, ses yeux gonflés, sa barbe blanche. À sa mort, le rédacteur en chef l'avait mise en couverture et avait titré « Le nouvel homme n'est plus ». J'avais les jambes coupées, des fourmillements dans les mains. J'ai pris tout ce que j'ai pu et j'ai porté ses vestiges, tel un cercueil, jusqu'au bout de la rue, dans l'espoir de trouver un taxi et de les rapatrier chez moi. Mais ils ont glissé de mes mains, à plusieurs reprises, et se sont étalés dans la neige impure. À chaque fois, je les ai ramassés pour essayer de les sauver, tant bien que mal. Arrivé au bout de la rue, je me suis rendu à l'évidence. C'était peine perdue. L'objet de mon attachement s'était dégradé de façon irréversible. Je devais l'admettre et ne pas m'accrocher à sa dépouille. J'ai tout abandonné dans une poubelle et me suis mis en route pour la maison, seul avec Madame Buteau. Cette fois, la démocratie était bien morte, même à Téhéran. Le ciel, rempli de nuages, semblait sur le point de se coller à la terre. La bise froide heurtait ma nuque. Mes jambes étaient gelées, mes mains engourdies. J'ai appelé ma rédactrice en chef en chemin pour comprendre pourquoi nous étions suspendus.
Prévention de l'apparition du crime.
Qu'est-ce qu'on nous reproche, au juste ?
Rien.
Alors pourquoi on est suspendu ?
Pour nous empêcher de commettre un crime.
Je me suis retrouvé 2 mois à la maison à essayer de faire passer l'hiver. Mon père disait toujours « Quand tu as, profite. Quand tu n'as pas, emprunte. » J'ai vivoté de prêt jusqu'à ne plus rien avoir. Comme j'avais du retard pour le paiement du loyer, j'ai appelé la rédactrice en chef. Après les bavardages d'usage, je lui ai demandé « Et côté finance, il y a du nouveau ?»«
Pas pour l'instant. Tu connais l'histoire. C'est comme d'habitude. »
En général, dès qu'on était suspendu, le comptable disparaissait. Comme d'habitude, voulait dire « N'attends rien de ce côté et débrouille-toi autrement. »
J'ai expliqué la situation à mon propriétaire pour lui demander un délai. « Je comprends, vous me le réglerez avec le loyer du mois prochain. » Entre-temps, j'ai épluché le code de la presse pour connaître toutes les subtilités du métier et m'abstenir de toute infraction à l'avenir. Mon voisin d'en face venait parfois me rendre visite le soir pour discuter de sujets sociaux et politiques. Il était retraité et cela faisait des années que sa femme était morte et que ses enfants avaient émigré au Canada, en Suède et en Russie. Un soir, il m'a demandé « Qu'est-ce que tu penses de la situation, Amadi ?»« Tu vois bien, Sadeghi. Ça va mal, hein ?»« C'est la merde, Sadeghi. » Et puis un jour, ma rédactrice en chef m'a enfin appelé.
« On lance un nouveau journal. Rapplique !»
La promesse d'une nouvelle idylle. La suite était encore plus engageante.
« Cette fois, on va mettre le feu. Tu piges ?»«
Je vois. » J'avais acheté un nouveau mug à l'effigie de Camus, la clope au bec et le col remonté, immortalisé par Henri Cartier-Bresson dans une rue de Paris. Je l'ai glissé avec mes autres affaires dans mon sac à dos et me suis mis en route vers le journal. Sur le palier, j'ai croisé Sadeghi, qui graissait les gonds de la porte de son appartement avec sa maniaquerie habituelle. Il a interrompu sa tâche quelques minutes pour discuter avec moi. Il a fini par me demander « Et comment va la situation ?»« Très bien, Sadeghi. Il s'est passé quelque chose ?» Un nouveau journal est lancé. Ah, d'accord. Les locaux étaient loin du centre. J'ai dû prendre plusieurs lignes de métro et même un bus. À peine arrivé, j'ai fait imprimer la photo de Cartier-Bresson intitulée « Enfant rue Mouffetard avec deux bouteilles de vin » et l'ai affichée au-dessus de ma tête. Le soir était à nouveau dégagé, le soleil pointait le bout de son nez, une brise entrait par la fenêtre. C'était le printemps, le temps de l'ivresse. On s'est mis au travail sans tarder, on enchaînait les réunions et on discutait des sujets en pesant le pour et le contre. Prudence, c'était la politique entreprise par la rédactrice en chef. Renoncer aux sujets qui fâchent le temps que le journal prenne. Un jour, je lui ai suggéré « Et le divorce ? Ça ferait un bon papier accrocheur !» Elle m'a rétorqué
« Et pourquoi pas le mariage ?»
C'était un des effets de la prudence. Il fallait à tout prix voir le verre à moitié plein. Quand je me suis rendu au tribunal, on m'a désigné un homme d'un certain âge. Vous pouvez l'interviewer. La prudence voulait que je me mette en quête de quelqu'un de dévasté, accablé par sa condition. Pour bien transmettre le message à nos lecteurs que rien de réjouissant ne les attendait en cas de divorce, et qu'il ferait mieux de s'accrocher à leur vie de famille. J'ai dit à la secrétaire que ce monsieur me paraissait trop vaillant et sans le moindre soupçon de regret. J'en voulais un autre. Il est là pour son 12e divorce. Prévenante, elle m'a assuré que ce serait un parfait marronnier. Bon, si vous le dites. Il attendait une signature. Je suis allé m'asseoir à ses côtés et me suis présenté. Il a commencé par décliner froidement en disant qu'il ne souhaitait pas s'exprimer sur sa vie privée. « Mais votre vie est devenue publique !» Alors il a acquiescé et a accepté de se livrer. Il a évoqué plusieurs de ses dames, puis a tiré de sa poche intérieure un carnet par souci de précision. « Je vous prie d'être aussi précis dans votre article. » Il est apparu qu'il respectait à chaque fois toutes les étapes formelles du mariage, puis du divorce. Il a évoqué avec minutie les caractéristiques de chacune d'elles. Ce n'est pas trop dur ? Pas du tout, il faut juste respecter les règles. Et l'amour dans tout ça, il en est question ? Et comment ? Pourquoi vous les quittez alors ? Parce qu'il arrive un moment où on ne s'entend plus. Et le divorce est toujours mieux que le meurtre, non ? En droit, ça s'appelle la prévention de l'apparition du crime. Il a marqué une pause, puis a persisté en affirmant qu'il valait mieux passer devant le juge aux affaires familiales qu'en cour d'assises. Son épouse patientait sur une chaise un peu plus loin, en triturant la bandoulière de son sac. Je me suis penché et ne me suis pas gêné pour la regarder. « Elle est belle, hein ? » a-t-il dit. « Si, elle est très belle. » J'ai compris qu'il adorait les femmes, toutes les femmes. Divorcer lui était vital. Le prochain mariage n'allait pas tarder.
Peu de temps après, la suspension nous est tombée dessus. La prudence n'avait pas suffi. C'était mon jour de congé. J'étais affalé devant la télévision à regarder un commentaire de la BBC. Un prédateur tournait tranquillement dans le ciel en attendant le bon moment pour ne faire qu'une bouchée d'un bébé léopard blessé. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner, mais j'étais absorbé par ce suspense. Je voulais voir ce qu'allait faire le petit. Il sentait le danger, mais il était incapable de se sauver et il se tortillait sur place. Là, tout à coup, j'ai vu dans le bandeau d'information continue de la BBC « Iran, nouveau cas de suspension d'un journal ». Quand le documentaire s'est terminé, je me suis levé, me suis versé une tasse de café et j'ai changé de chaîne. Je savais que ma chef allait bientôt m'appeler pour me dire
« Un nouveau journal va ouvrir, rapplique. Cette fois, on va mettre le feu, tu piges ?»
Et je lui répondrai « Bien sûr ».
Vie de journaliste n'est pas un long fleuve tranquille.
Dans ces pays-là, c'est pas facile.
Et puis on s'excuse, on était en train de rire un peu avec Mireille, parce qu'on s'excuse, on a pris des libertés avec cette nouvelle. On a transformé le rédacteur en chef, en rédactrice en chef, en la personne de Mireille. Voilà. Mais on a des doutes sur le fait qu'il y ait beaucoup de rédactrices en chef dans la presse de Téhéran, à vérifier. Mais...
voilà, mais bon, comme on n'avait pas d'homme sous la main pour faire la voix, voilà, je me
on
suis
a pris
prêté.
Mireille qui n'est pas un homme.
Voilà, pas encore. En tout cas. Donc, voilà. Et donc, je trouve que la nouvelle est assez d'actualité. Là,
elle en dit long.
Voilà, par rapport au contexte.
Prévention du crime. Voilà. Ils se demandent bien quel crime ils ont commis au sein du journal, mais bon. C'est la cause de la suspension de leur journal quand même.
Bah oui, oui. Alors, parmi les écrivains contemporains, on peut aussi citer Hedayat Shariati, Fereydoun Moshiri ou encore la poétesse Forug Forogzad.
Oui, alors je me suis un petit peu intéressé à elle parce que c'était une sacrée femme, bon, qui est morte à 33 ans en 1967. Mais c'est une femme qui avait fait des études de cinéma en Angleterre, qui avait produit un film « La maison est noire » sur la vie des lépreux. Mais c'était surtout une poétesse, des sens et de la relation homme-femme. Et elle s'inscrivait en cela dans une avant-garde littéraire parce qu'elle revendiquait déjà l'égalité des droits entre hommes et femmes à l'époque. Donc Forug Forogzad, elle disait « Je suis tout à fait consciente des souffrances de mes sœurs dans ce pays à cause de l'injustice des hommes et j'emploie mon art en partie pour exprimer leurs douleurs et leurs peines. Je souhaite que les hommes iraniens renoncent à leur égoïsme et laissent les femmes cultiver leurs talents et leurs goûts. » Ça, c'était avant 67. Hein, donc,
oui, donc,
elle pourrait dire la même chose.
Actuellement, oui. Alors, quant aux auteurs qu'on va retrouver dans ce recueil de nouvelles, hein, la moitié vivent en dehors de l'Iran, hein, parce que c'est pas forcément facile toujours de vivre là-bas. Et certains d'entre eux sont des écrivains bilingues, hein, puisque
au moins.
Ceux qui vivent en France souvent écrivent en français aussi.
Sûrement au moins.
Ou il y en a aux États-Unis. Donc là, ce que je vous propose, c'est d'écouter une nouvelle donc, de Nassim Wahabi, qui vit en France d'ailleurs, et qui s'appelle « Mon imagination ne sert à rien ». Et donc, cette nouvelle est lue par Sophie.
Il n'est pas aisé de choisir l'endroit où il faut faire atterrir une bombe. Bon, il faut bien qu'elle se pose quelque part et qu'elle détruise. Cela fait partie de l'identité d'une bombe. Comment une bombe peut-elle être fière d'être elle si elle n'arrive pas à chambouler des vies ? Une bombe qui choisit de ne pas fonctionner se prend peut-être pour une martyre, mais ce n'est qu'une traîtresse. Moi, je n'aime pas les hypocrites dissimulés. Il faut qu'elle assume. Une bombe, c'est une bombe. C'est tout. Maintenant, c'est à moi et à mon imagination de la faire atterrir à un endroit qui ne fasse pas de dégâts importants. Mon imagination m'a souvent aidé à digérer les frénésies. Il y a une immense différence entre une bombe qui saccage un champ et une qui ravage une caserne. Je choisis évidemment les champs. Mais il y a une route qui passe par ce champ et un camion qui roule sur cette route. Et un conducteur qui conduit ce camion vers la ville. Et des centaines de lettres qui remplissent le camion et qui attendent que le postier les confie au bureau pour qu'elles partent vers leur destination à travers tout le pays. Sur l'étendue de ce grand champ de coton, la bombe que j'imagine tombe sur le camion postal et pulvérise les lettres. Et c'est ce que je préfère, égoïstement. Et le conducteur du camion, c'est la guerre. Que puis-je imaginer ? Le conducteur pourrait faire partie des volontaires, des Basidjis, des civils ayant subi un lavage de cerveau qui ne souhaitent qu'une chose, mourir pour leur Dieu. On ne sait jamais. Les tranchées sont peuplées de jeunes qui sont obligatoirement devenus volontaires et ne cherchent qu'à mourir en martyrs. En tout cas, cette maudite bombe ne doit pas s'abattre sur les tranchées. Les lettres sont sacrées, mais les amoureux accepteront que leurs lettres soient déchirées plutôt que leur amour. Mieux vaut sacrifier le camion postal avec un seul passager transportant les lettres d'amour que toute une section. Voilà ce que j'imaginais pendant les jours où j'attendais ces lettres. Mon amoureux faisait partie d'une section de combat d'infanterie de 26 hommes composée de 3 groupes de combat avec un chef de groupe, 2 chefs d'équipe, 4 grenadiers, un radiotireur, un conducteur, etc. Il m'a tout écrit et décrit. Mon âme est devenue soldate le jour de sa mobilisation. Notre première rencontre eut lieu au sous-sol du théâtre de la ville, un après-midi de printemps de la dernière année de la guerre Iran-Irak, quand Téhéran fut la cible de roquettes. Le spectacle venait d'être annulé, l'alerte fut lancée, tout le monde se précipita à l'abri au sous-sol du théâtre. On était nombreux. Après avoir entendu le bruit assourdissant d'une explosion qui fit trembler tout le bâtiment, je redoutais que la mort eût découvert notre cachette. Un inconnu effrayé et moi sommes restés côte à côte. Il sentait bon. Après la seconde explosion, l'électricité fut coupée. On était dans l'obscurité. Nos mains se rapprochèrent sans qu'on l'ait décidé. Une chaleur qui accentuait la peur. Nous respirions au même rythme, le souffle court. Tout a été chamboulé. J'ai entendu le parfum de ses cheveux et senti sa voix murmurer. « Me permettez-vous de vous embrasser ?» Cette première rencontre fut le baiser le plus tendre de ma vie, qui nous rendut passionnément attachés l'un à l'autre. Jusqu'au jour où il partit pour Somar. Somar, Guilan, Garbe, Pavay, Avaz, Marivan, ce n'étaient pour moi que des petites villes, des régions du sud, de l'est et du sud-est du pays. Les régions les plus touchées où la guerre coulait à volonté. J'habitais à Téhéran quand la guerre avec l'Irak a éclaté. Téhéran n'étant pas directement concerné, je me fichais du journal de 20h qui ouvrait toujours sur les nouvelles des tranchées. Je me suis intéressée aux nouvelles de la guerre le jour où mon amoureux m'a annoncé que son dossier n'avait été retenu par aucune université du pays. La déception est un bien pauvre terme pour décrire nos sentiments. C'est la plus profonde tristesse qui nous a envahis, soit étudiant, soit soldat. Le dossier non retenu rimait avec l'engagement dans l'armée. Les fronts avalaient avidement les hommes. Ils partaient en soldat et rentraient en martyr. La guerre pénétra dans ma vie par l'intermédiaire de la carte de service militaire de mon soldat qui devait partir quelques jours plus tard vers Somar. D'une certaine manière, j'étais moi aussi envoyée dans les tranchées. Je vécus ma mobilisation en m'engageant dans la guerre par correspondance. Chaque fois que j'entendais le nombre de morts à la suite d'une attaque, je le multipliais par 2, les soldats et leurs amoureuses. J'envoyais une lettre par semaine et en recevais une par mois. Une seule mais très longue lettre qui dégageait un amour renversant. La guerre nous a rendus poètes, philosophes, imaginatifs, indispensablement patients et fatalement fidèles. La première semaine où je n'ai rien reçu fut la plus longue de l'année. La deuxième semaine, l'air devint irrespirable pour moi et le monde trop restreint. J'étais en terminale. Un jour, dès l'arrivée au lycée, je n'eus pas le cœur de retrouver mes amis. Sans aucune envie de faire quoi que ce soit, je suis allée directement dans notre classe vide et froide. Je me suis mise devant le tableau et prenant le feutre rouge, j'ai écrit « Mon amour Somar ». Quelques minutes plus tard, le slogan en haut du tableau fut remarqué par les 26 jeunes filles de la classe qui entraient petit à petit dans la salle. Un profond silence criait l'émotion dégagée par la petite phrase. Les nouvelles parlaient d'une attaque meurtrière dans les régions frontalières du Sud. Ne recevant aucune lettre depuis plusieurs semaines, je ne savais pas s'il fallait continuer à s'inquiéter de la santé de mon soldat ou s'il fallait espérer que c'était seulement un problème de courrier. J'imaginais le camion postal rempli de lettres d'amour roulant sur un champ de mine ou écrasé par une bombe ayant explosé, avec toutes les lettres martyrisées. Mais je ne permettais pas à mon imagination de bombarder les tranchées. Mon inquiétude était en ébullition. Le lendemain, dès mon arrivée en classe, je remarquais une série de courtes phrases en haut du tableau. La classe sentait l'amour. Dès que la professeure d'histoire-géographie entra, son regard suivit celui des filles. Elle n'osa pas les effacer. Mon amour pavait, mon amour avase, m'arrivant mon amour. Cet arc-en-ciel fut pour moi l'incarnation du soulagement. Puisque je me dis peut-être aucune lettre n'était arrivée. Les lettres étaient sacrées, elles faisaient partie de notre vie. J'appartiens à une génération pour laquelle écrire des lettres d'amour revêtait une signification qui allait au-delà de la communication. Le manuscrit représentait aussi bien l'entité de l'amour que l'identité des amoureux. Et la signature apposée à la fin de la lettre témoignait de la déclaration officielle d'un sentiment avoué noir sur blanc. La lettre d'amour était un document vénérable. La guerre est insignifiante quand on n'est pas concerné. Tout le monde la condamne puisque c'est quelque chose d'absurde. Mais c'est seulement lorsque ces affreux contre-coups nous touchent qu'on arrive à définir cette expérience incomparablement personnelle. Comme l'amour qui n'est qu'un sentiment attrayant tant qu'on n'est pas amoureux jusqu'aux os. Sinon, il se transforme en une expérience unique, compliquée et indicible. L'amour a un caractère universel, comme la guerre. C'est inutile de les imaginer. Deux corps nus, unis, remplis, nourris, comblés par l'amour, les minutes passent et le moment de partir arrive. Il enfile son jean et son t-shirt, et moi mon jean, mon chemisier, mon manteau et mon foulard, et je quitte son studio. Il se prépare à repartir et moi à attendre pour renifler ses lettres. Lui, il n'est jamais rentré de la guerre. Mais ces lettres sont toutes arrivées à mon adresse et elles sont toujours tellement vives qu'elles vaincront toutes les guerres. J'ai reçu des mois plus tard celle dans laquelle il m'annonçait sa bonne nouvelle. Mon chef de groupe a fait en sorte que je quitte la section de combat d'infanterie pour devenir le conducteur du camion postal. C'est plus agréable et moins risqué. Les directions en soi ne sont qu'un infime détail. Tout dépend de là où on est situé. Il n'est pas aisé de choisir l'endroit où il faut faire atterrir une bombe. Bon, il faut bien qu'elle se pose quelque part, mais elle peut ne pas détruire. L'identité n'est pas une fatalité, même pour une bombe. Elle peut changer, se remettre en question et se corriger. La bombe non explosée est une résistante. Une bombe qui choisit de ne pas atteindre sa cible manifeste son désir de changer d'identité. En assumant son identité, elle la remet en question. C'est un lourd choix pour une bombe de ne pas fonctionner ou de ne pas suivre son destin programmé. Et si cette maudite bombe restait inactive? Si elle renonçait à son devoir, reniait sa destinée, abandonnait sa fonction? Si un jour les bombes décidaient de ne plus jouer le jeu? J'imagine maintenant que ce jour-là, sur l'immense champ de coton, sur la chaussée menant à la ville, cette bombe s'approche de la terre et, tout en hésitant, tombe tout simplement par terre. Un bruit et c'est tout. Mon soldat est déstabilisé, mais il garde le contrôle de son véhicule, son camion postal. Il roule sans relâche jusqu'à la ville et livre les lettres qui volent vers leur destinataire. Mon imagination est la petite cuillère qui remue la vie et fait en sorte que cette amère potion devienne possible à avaler. Mais à vrai dire, mon imagination ne sert à rien. Cette potion manque de sucre.
On comprend le titre tout à la fin, mais c'est vrai qu'on a un peu oublié la guerre Iran-Irak, nous, Français, en tout cas, non concernés, mais ça date des années 80, et même de la fin des années 80. Et puis, on peut peut-être aussi préciser que la majorité de ces nouvelles sont interdites de publication en Iran. Oui, on comprend aussi. Pourquoi.
Hein. C'est pas en odeur de sainteté, on
voilà,
peut dire.
Bien dit.
Alors, sur la quatrième de couverture du livre, hein, on lit à propos de cet ouvrage collectif. Donc, cette ambitieuse anthologie réunissant 17 autrices et auteurs contemporains d'origine persane à travers le monde propose un éventail de nouvelles unies par un thème commun. L'amour sous toutes ses formes, hein, comme dans le...
Voilà.
Cette nouvelle-ci, l'amour filial, l'amour divin, l'amour tyrannique, l'amour déçu, l'amour de jeunesse. L'amour de l'art, du sport, de son métier, mais aussi et surtout l'amour comme résistance. Autant de possibilités qui donnent à découvrir les nuances de l'âme iranienne. Les profils, les âges et les rapports à l'Iran de ces 17 nouvellistes sont variés. Écrivains vivant en Iran ou à l'étranger, celui qui n'est jamais retourné au pays ou celle qui y revient régulièrement, auteur en herbe ou déjà traduit en plusieurs langues, celui dont les ouvrages ont subi la censure ou celle qui a toujours écrit en toute liberté, écrivain bilingue, informaticien, journaliste, ingénieur, docteur esthète, traducteur, libraire ou religieux, toutes et tous représentent la littérature iranienne contemporaine par-delà les frontières géographiques et linguistiques. Alors cette anthologie se veut une invitation à un voyage littéraire au cours duquel ces 8 femmes et ces 9 hommes racontent leur vision de l'amour dans toute sa diversité.
Donc je rappelle le titre, Les Amours Persanes, je crois que c'est un recueil qui est sorti au début de l'année 2021. Là.
Oui, c'est assez récent. Hein.
Et il y a une très belle préface de Jean-Claude Carrière. Jean-Claude Carrière qui est décédé en février 2021. Donc, un peu après la sortie de ce beau recueil.
Voilà. Là, ce que je vous propose, c'est d'écouter la dernière nouvelle qui s'appelle « Au fond du tableau » de Gita Garakhani, qui vit en Iran. Hein. Et puis après, comme ça, tu pourras nous parler de cette présentation. Voilà. Donc, on vous laisse avec Gita Garakhani. Le texte est lu par Marie-Laure.
Monsieur Amadi, plongé dans la page des faits divers du journal qui couvrait entièrement son visage, dit sur le ton solennel qu'il avait chaque soir « Le dîner !» Il leva la voix juste assez pour être entendu de son épouse, assise près de lui dans un fauteuil douillé. Il entendit de ses propres oreilles sa réponse « Tout de suite !» Mais la voix de sa femme était étrangement faible, comme si elle provenait de loin, de très très loin. Monsieur Amadi ne leva pas la tête de la page des faits divers, mais il remarqua que, contrairement à d'habitude, rien ne se passa. Le bruissement de son épouse qui se lève, qui se dirige à petits pas vers la cuisine, la vaisselle qui s'entrechoque, les assiettes posées sur la table, il n'entendit rien de cela. La maison était tout à fait silencieuse. Il jeta un œil à la grosse horloge ronde sur le mur d'en face. Les aiguilles indiquaient 19h45. Habituellement, il passait à table entre 19h20 et 19h30 et leur dîner durait de 15 à 20 minutes maximum. Ce qui permettait à M. Amadi, à 20h tapante, en buvant son thé d'après-dîner et en entendant Madame faire la vaisselle dans la cuisine, de regarder tranquillement son journal télévisé. Mais ce soir-là, aucun signe du dîner. Monsieur Amadi répéta « Le dîner !» Il entendit de nouveau la voix de sa femme tout de suite. Cette fois, sa voix était si faible et lointaine que Monsieur Amadi ferma son journal et regarda le fauteuil douillé où elle s'asseyait toujours. Il l'aperçut. Non qu'il la vit vraiment, mais il aperçut un instant son ombre claire sur le fauteuil. Un instant, pas plus. En un clin d'œil, sa femme avait disparu. Monsieur Amadi cligna des yeux plusieurs fois et fixa de nouveau le fauteuil. La trace du corps de sa femme était visible sur les coussins, mais elle n'y était pas. Monsieur Amadi se leva et se rendit dans la cuisine. La table était mise pour deux. Tout était impeccable. Le plat du soir mijoté sur la cuisinière, personne n'avait coupé le feu, personne ne l'avait servi. Pire encore, il n'y avait personne dans la cuisine. Monsieur Amadi se mit à chercher dans toute la maison en appelant « Madame, Madame !» Madame n'était nulle part, ni dans la chambre, ni dans la salle de bain, ni dans la petite lingerie qu'elle s'était aménagée, où elle faisait son repassage et ses corvées de couture. Peut-être était-elle allée faire une course pendant qu'il s'était assoupi en lisant le journal. Il savait bien qu'elle n'aurait jamais fait une chose pareille. Jamais elle ne serait sortie sans le prévenir. Et puis de quoi aurait-elle bien pu avoir besoin à cette heure-là, qu'elle n'est déjà à la maison ? Madame Amadi était encore plus organisée que son mari. Elle faisait des listes de courses et s'en chargeait de façon régulière. Le dernier mercredi du mois était consacré aux courses mensuelles et chaque lundi aux courses hebdomadaires. Monsieur et Madame Amadi, n'ayant ni enfants ni fréquentations inutiles, aucun imprévu ne pouvait venir perturber leur routine. Et surtout, il était impossible que sa femme sorte sans le faire dîner. Toutes ses pensées le plongèrent dans une angoisse terrible. Dans la page des faits divers, il avait lu qu'un conducteur s'était endormi au volant de sa voiture et avait eu un accident mortel. Lui n'avait pas eu d'accident. mais il avait la même impression de se réveiller en sursaut en pleine nuit sur une route déserte, sans âme qui vide. Le souvenir de la voix de sa femme entendue de loin, de très loin, et la certitude d'avoir aperçu son ombre sur le fauteuil attisaient son angoisse. Madame Amadi n'avait pas d'amis. Elle n'était pas sociable. Elle n'aimait pas les réunions entre femmes. Elle n'aimait pas grand-chose. Sa seule lubie, au début de leur mariage, avait été de peindre. Or, M. Amadi était allergique à l'odeur de la peinture à l'huile. Si un matin, Madame ouvrait un instant, un seul instant, un de ses satanés tubes, le soir, à peine monsieur avait-il franchi la porte de la maison qu'il se mettait à tousser et à renifler, comme s'il avait eu un mauvais rhume. Du reste, la peinture empêchait madame de bien s'occuper de la maison. Les tubes disparurent progressivement. Ils furent rangés dans les étuis et les boîtes d'aquarelles furent refermées. Les crayons de couleur alignés dans leurs boîtes, madame cessa ses enfantillages. Elle se consacra entièrement à réunir les conditions du bien-être de son mari. Madame ne souffrait pas qu'il n'ait pas d'enfant. Elle avait peut-être été légèrement gênée d'apprendre qu'au moment du mariage, M. Amadi ne savait déjà stérile. Mais elle avait pu comprendre que son mari n'ait pas jugé bon d'aborder le sujet avec sa famille lorsqu'il était venu demander sa main. M. Amadi ne voulait pas dire que sa première femme l'avait quitté. Il avait affirmé qu'il s'était séparé pour cause d'incompatibilité de caractère. Et personne n'en avait douté. Madame ne s'était pas attardée sur la question de l'enfant. Elle n'était pas difficile, elle était douce et conciliante. Elle n'était pas du genre à chercher des problèmes. En fait, elle n'embêtait personne. C'était celle que l'on entendait le moins dans les soirées. Elle se contentait de hocher parfois la tête pour approuver les dires de son mari. Ces derniers temps, avec l'aggravation de sa maladie, elle n'avait même plus l'énergie d'acquiescer. Elle restait assise à écouter. C'était en tout cas l'impression qu'elle donnait. Calme, silencieuse, la quintessence d'une dame, pour reprendre l'expression de M. Amadi. Le seul problème, c'était sa maladie. Madame s'estompait. Son épaisse chevelure noire s'était éclaircie. Elle n'était pas devenue grise, elle s'était éclaircie, comme les tissus noirs dont la teinture a du mal à prendre. Ses yeux, d'un bleu profond, avaient eux aussi commencé à se délaver. Dernièrement, ils en étaient presque devenus blancs. Il n'y avait que sa peau qui n'avait guère changé. Elle était pâle dès le départ, très pâle. Sa peau avait peut-être pâli encore, mais cela ne se voyait pas. Seul le rouge de ses joues et de ses lèvres s'était transformé en un rose terne. Dernièrement, il était devenu impossible de deviner la couleur de ses lèvres. Elles étaient si claires qu'on ne les voyait plus. Même les traits de son visage s'estompaient. Au début, M. Amadi était très inquiet de cette maladie. Puis, sans l'oublier, il s'y était progressivement habitué, et madame s'effaçait de plus en plus, en silence. En tout état de cause, madame n'était pas de celles qui abandonnent le domicile conjugal. Un peu plus ou un peu moins de couleur n'y aurait rien changé, pas plus que la stérilité de son mari, son rejet de la peinture ou son goût pour l'ordre. Rien de tout cela n'aurait pu la convaincre de partir. C'était une femme tranquille, modérée, docile, conciliante. Monsieur Amadi ne lui manquait jamais de respect. Il la ménageait, comme si elle avait été une partie de son propre corps. Son estomac, son intestin ou même son foie, mais en tout cas pas son cerveau. Monsieur Amadi était sûr qu'aucune femme ne pouvait remplacer le cerveau d'un homme ayant un peu vécu. Il l'appelait « Madame » en toutes circonstances. Toutes ses ennemies, jamais personne n'avait entendu Monsieur Amadi s'adresser à sa femme en d'autres termes. Il l'avait tant appelée par ce nom qui lui était resté. Il ne se souvenait pas que madame avait autrefois eu un nom. Matab avait une chevelure de jais, de longs et fins sourcils noirs, des cils noirs, des yeux d'un bleu sombre et la peau blanche, les pommettes et les lèvres rouges. Elle ressemblait à une peinture. C'est ce qu'avait dit sa grand-mère la première fois qu'elle l'avait vue, bébé. Par la suite, elle disait toujours « Dieu a pris le temps de l'achever la création de cet enfant ». Il s'est bien appliqué pour dessiner son visage. Il ne s'est pas moqué de nous. Dommage qu'elle soit si turbulente. Un vrai garçon manqué. Tous partageaient la vie de grand-mère. Le matin, à peine levé, Matab grimpait aux arbres, guettait un moineau pour l'attraper, avant de le relâcher par pitié. Elle ne tenait pas en place. Les poupées l'ennuyaient. Elle détestait la couture. Grand-mère ne manquait pas une occasion de la coincer pour lui mettre du fil et une aiguille entre les mains, mais elle s'échappait toujours. Un jour, elle avait fini par jeter la boîte à couture de grand-mère dans le puits. Ma table était la favorite de grand-mère. Pourtant, dès qu'il était question d'elle, son aïeul soupirait d'inquiétude en secouant la tête. Les adultes disaient « Elle s'arrangera en grandissant !» et se regardaient les uns et les autres, eux qui s'étaient arrangés en grandissant. Mais grand-mère restait inquiète pour ma table. Elle craignait que celle-ci ne s'arrange jamais. Elle disait qu'avec ce caractère, on ne pourrait pas la marier. Et une fille qui ne se marie pas et reste à la maison est promise au malheur. Elle devient le souffre-douleur de ses frères et de ses belles-sœurs. Sa vie devient un enfer. Ma table grandit et ne s'arrangea pas. Elle resta frivole. Elle n'écoutait personne. Elle n'obéissait à personne et ne travaillait pas bien au lycée. À 16 ans, elle se mit à la peinture et elle se soumit soudain aux règles des traits et des teintes. Quand elle peignait, elle ne s'occupait pas des autres. Elle restait assise des heures, plongée dans sa peinture. Ses œuvres étaient comme elle, pleines de couleurs. Elle n'avait aucun mal à dessiner ni à poser les pigments sur la toile. Le seul problème était qu'elle prenait tout cela très au sérieux. Une fille doit avoir un talent. Tout le monde le disait. Mais plutôt la couture, la broderie, la pâtisserie. Dans la vie, la peinture, ça ne sert à rien. Si au moins elle ne prenait pas cela tant au sérieux, ce serait tolérable, voire appréciable. On aurait pu accrocher ses tableaux au mur de la maison et vanter ses talents en présence des invités. Quelques-uns, juste assez pour les inviter, pas plus. Ma table ne voulait rien savoir. Elle voulait devenir peintre, une grande peintre. Quand on lui disait qu'il n'y avait pas d'avenir là-dedans, elle riait en haussant les épaules. C'est à cette époque-là que grand-mère remarqua que ma table avait une autre passion, Morane. Le fils des voisins était un garçon comme il faut. Il venait d'entrer à l'université. Il parlait bien, avait la tête sur les épaules et faisait toujours rire ma table. Grand-mère avait remarqué que dès que Morane apparaissait avec sa longue silhouette et son regard doux, ma table n'était plus la même. Elle lui avait même quelquefois parlé de sa peinture et lui avait demandé conseil. Le jour où ma table annonça qu'elle avait décidé de prendre des cours de peinture chez le professeur conseillé par Morane, seule grand-mère comprit à quel point sa petite fille était mordue. Tout le monde aimait Morane, sauf grand-mère. Elle pensait à l'âme rétive de sa petite fille, à présent domptée, et elle secouait la tête de préoccupation. Le calme de ma table ne dura pas. Le soir où elle apprit que Morane allait épouser sa propre cousine, elle quitta la pièce sans un mot. Elle ne parla plus les jours suivants. Elle ne fit que peindre. Elle s'enferma dans sa chambre à peindre. Elle était devenue plus facile à vivre. Elle avait renoncé à tous ses entêtements pour se consacrer à la peinture. Elle obtint tant bien que mal son baccalauréat, mais elle n'en était pas moins perdue. Tout le monde avait des projets pour son avenir. Qu'elle poursuive ses études ici, qu'elle aille étudier à l'étranger pour devenir quelqu'un. Si elle ne part pas, qu'elle se mette au moins en langues étrangères, qu'elle apprenne un métier. Ma table écoutait chacun calmement, en silence. Mais elle ne faisait rien. Elle semblait ne rien vouloir. Les autres étaient soulagés d'être débarrassés de ses refus. Seule grand-mère continuait de se faire du souci pour sa petite. Le silence de ma table lui faisait peur. Cet enfant qui ne tenait pas en place se retrouvait désormais assise dans un coin, le regard dans le vide. Sa mère disait que toutes les filles faisaient pareil à cet âge-là. Grand-mère disait que ma table n'était pas toutes les filles. Quand ma table est conduisit son quatrième soupirant, à qui elle n'avait rien à reprocher, grand-mère se décida à lui parler. Personne ne sut ce qu'elle se dit. Mais en sortant de la chambre, ma table était encore plus éteinte qu'elle ne le sera le soir du mariage de Morane. Comme si son être avait disparu sous un épais rideau de brouillard. C'était à cette période que M. Amadi vient demander sa main. Il était petit et frêle, le haut du crâne dégarni, le cheveu rare. Il était divorcé, sans enfant, mais il avait de l'argent. C'était un commerçant prospère. Ma table était muette. Elle attendait en silence. Elle pensait que Morane reviendrait et l'emmènerait. Elle était sûre que Morane ne voudrait pas épouser cette fille-là, sa cousine. Alors que tout s'affairait pour son mariage, ma table avait l'impression de rêver. Elle errait sans rien dire. Morane ne revint pas et ma table enfila sa robe de mariée. La nuit, elle se réveillait en sursaut, son alliance la brûlait. Elle sentait un anneau de feu autour de son doigt. Elle trouva donc des prétextes pour la retirer discrètement et ne plus la remettre. Elle ne se rappelait plus où elle l'avait mise. En réponse aux questions de M. Amadi, elle se contenta d'évoquer une allergie à la baille. Son doigt emportait en effet le stigmate. Monsieur Amadi n'était pas méchant. Simplement, Matam ne le supportait pas. Les premières années du moins, avant que Matam ne s'oublie totalement, la seule vue de son mari lui était intolérable. Monsieur Amadi était misanthrope. Il ne voulait pas que l'on voie sa jeune épouse. Il voulait une femme qui lui obéisse, qui ne sorte pas, qui ne travaille pas, qui n'ait aucune relation qui ne soit contrôlée par lui. Et surtout, une femme qui soit économe, qui lui rende des comptes pour chaque sou dépensé. Matab était piégé. Le début de leur vie commune se déroula dans la douleur et la dispute. Mais en silence. Rien ne se savait en dehors de leur foyer. Matab ne parlait pas à sa famille. Elle ne leur pardonnait sans doute pas le mariage absurde qu'il lui avait imposé. Elle aurait mieux fait de se jeter sous une voiture ou de s'empoisonner. Sa mort aurait été instantanée, elle en aurait fini. Cette vie n'était qu'une lente et douloureuse agonie. Grand-mère mourut peu après le mariage de Matab. Morad alla lui rendre visite avant sa mort, puis participa à ses funérailles, accompagné de son épouse. Voir Morad auprès d'une autre femme aggrava encore l'état de Matab. Elle ne pleura pas à sa grand-mère. Elle s'assit dans un coin et cacha son regard furieux aux autres. Elle se réfugia de nouveau dans la peinture. Mais ses toiles étaient si sombres et chaotiques qu'il était difficile d'y distinguer quoi que ce soit. Elle peignait l'univers dans lequel elle était empêtrée sans le comprendre. Elle représentait les barreaux invisibles de sa cage. Des visages hostiles, des êtres seuls et perdus, et au loin, dans chaque toile, un fantôme inaccessible. Elle recouvrait tout cela de couches de peinture. Les couleurs vives étaient censées enfouir tant de peine et de solitude. Elle perdit la foi en la peinture dès la mort de grand-mère, avant même de revoir Morad. Si M. Amadi avait un peu attendu, Matab aurait renoncé d'elle-même à sa passion. Elle avait vite compris que ses couleurs ne faisaient que couvrir encore des images déjà sombres. Elle se tourna donc vers des tons pastels. Son bleu turquoise laissa la place à un bleu ciel livide. Elle ajouta tant de blanc dans sa palette que son monde se délava progressivement. Ce fantôme, cette longue figure humaine floue qui habitait l'arrière-plan de tous ses tableaux, se dissolvait dans la ligne de l'horizon. Elle comprit alors que, tout ce temps, elle avait été éprise d'une ombre. Une ombre qu'elle faisait désormais apparaître au fond de ses tableaux. Après les 40 jours de deuil portés pour sa grand-mère, elle abandonna la peinture. Elle referma ses tubes et ses boîtes d'aquarelles. Elle aligna soigneusement les crayons de couleur. Elle regroupa ses tableaux. Elle les recouvrit d'un tissu blanc et les adossa côte à côte contre le mur de la cave, telle une rangée de momies. Monsieur Amadi était heureux d'être parvenu à ses fins sans avoir eu à livrer bataille. Dès lors, Matab s'estompa et devint Madame Amadi. Ce soir-là, lorsque de son éternelle voix ennuyeuse et solennelle, Monsieur Amadi dit « Le dîner !» Matab tourna la tête. Elle le vit qui réclamait son dîner caché derrière son journal. Elle, qui avait pris le pli de l'obéissance, répondit « Tout de suite ?» De loin, mais elle était déjà partie. Elle continua de s'estomper jusqu'à disparaître totalement. Elle avait perdu ses couleurs progressivement et, à présent, elle était assez transparente et légère pour pouvoir traverser n'importe quel obstacle. La deuxième fois que M. Amadi l'appela, Matab était déjà très loin. Elle n'avait plus la moindre envie de répondre. Elle se retourna et ne répondit pas. Elle se tenait près de l'ombre qui habitait l'horizon de ses tableaux.
Voilà la dernière histoire.
Bah, le patriarcat de Beaujour devant lui. Hein.
Donc voilà, donc ça c'était la dernière histoire. Bon, si vous avez l'occasion de lire ce recueil, bah, c'est vrai que c'est y a plein de belles histoires. Voilà.
Et oui, c'est toujours bien de connaître un peu les autres cultures.
Bah oui.
Quand on peut.
Il faut varier les plaisirs.
Voilà, pas être monomaniaque.
C'est vrai qu'on vous parle souvent d'auteurs américains, mais bon.
Mireille a un petit penchant.
Voilà.
Alors moi, je veux bien lire un petit extrait de la préface de Jean-Claude Carrière du recueil Les Amours Persanes. C'est un extrait que j'ai trouvé rempli de sens, comme bien souvent dans ce que ce cher Jean-Claude Carrière écrivait. « Il est grand temps de relire les auteurs iraniens, qui ont senti et qui ont dit que seul l'amour peut maintenir le monde dans sa main puissante et que cet amour est en nous, au plus profond de nos secrets, même si la plupart du temps nous crions notre hostilité et notre mépris pour les autres. Le Dalai Lama, dit à peu près la même chose en employant un mot que nous traduisons par « compassion » plutôt que par « amour ». Mais l'intuition profonde est la même. Il faut aller au fond de nous-mêmes pour découvrir ce qui nous unit, ce qui nous rapproche de l'autre, ce qui nous oblige, quelles que soient les circonstances, à le secourir et à le sauver. Alors, toutes les murailles s'effondrent, toutes les différences paraissent dérisoires, simples accidents de surface. La défiance, le mépris, la jalousie et même la haine, qui nous ont coûté tant de vies, paraissent soudain superficielles. La littérature iranienne nous le confirme, en recevant l'amour, nous sommes entrés dans le vrai monde. Signé Jean-Claude Carrière, disparu en février dernier.
Voilà, il n'y a pas très longtemps. Une grande perte.
Bah oui, quand même.
Donc, merci pour ça.
Bah, beau texte, un bel extrait.
Bah oui, oui. Donc j'espère que ces nouvelles vous auront plu. Bon, des fois, elles sont un peu tristes, un peu prudentes.
On ne peut pas faire que du comique. Hein.
Voilà. Et puis, on va se retrouver le mois prochain avec Truman Capote.
Ah, voilà. Un auteur qui n'est pas iranien.
Voilà, c'est ça. Donc, on repart un peu vers les États-Unis.
C'est bien,
et,
aussi.
Donc voilà. Bon, merci en tout cas pour...
Merci Mireille. Hein.
Voilà, merci.
Sinon, je n'aurais pas découvert ces beaux textes.
Je farfouille un peu partout dans les librairies, à la médiathèque.
C'est pas mal de farfouiller.
Pour trouver des choses qui sortent un peu de l'ordinaire.
Ben oui, c'est bien.
Eh bien, chers auditeurs, à bientôt dans une prochaine émission de Un auteur, une nouvelle.
Un auteur, une nouvelle.
Des histoires courtes racontées par des amoureux des mots.